Portez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic nous donnera l'agenda de la semaine sans oublier le débat avec ce soir le rugby et le Stade Toulousain. Enfin, nous recevrons Daniel Pi, ancien délégué de la Ligue de football professionnel. Avec nous ce soir, Lucas Serdic. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean.
Maxime Brossard. Ah, bonsoir oui. Maxime.
Bonsoir.
Et Timothée Rouvière. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean.
Messieurs, bonsoir.
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 On va dire à nos auditeurs, vous êtes arrivés
sur le gong.
Sur le fil.
Non, mais ça s'appelle la maîtrise.
Parfait. C'est ça. Ouais.
C'est total des éléments.
Bon, pour la semaine dernière, on va s'excuser auprès d'Antoine Albo. On va commencer là-dessus, notre invité. Oui. On a coupé au dernier moment. On n'a pas vraiment eu le choix. On a oublié qu'il fallait le rappeler. Il est en course pour le titre du meilleur marin de l'année pour la 11e fois. C'est quand même gigantesque. Ouais. On parlait de son palmarès, de sa carrière.
Ça s'ajoute.
On a oublié ça. Donc voilà, c'est passé. On a une mauvaise nouvelle aussi. Une mauvaise nouvelle, Maxime Brossard.
Et oui, ce matin, j'ai appris la mort de Roger, le très célèbre kangourou. Je ne sais pas si vous connaissiez. On vous montrera des photos. C'est le kangourou le plus sportif de la planète, tout simplement.
Ah, mais c'est le boxeur.
Ouais, c'était un kangourou qui paraissait bodybuildé, on va dire un peu. Et c'était devenu un peu notre mascotte dans cette émission. Et voilà, je le savais pas.
Franchement, ça me fait quelque chose.
Je pense que Marek va verser beaucoup de larmes aussi, lui qui est parti en Australie.
Il est actuellement en Australie. D'habitude, on devrait parler des paris, mais oui. On a eu un problème sur les paris.
On sait pas.
TFC Lyon, on avait parié sur TFC Lyon.
Moi, je pense avoir gagné, j'avais parié un report. Je rigole.
Qui aurait pu prévoir les JO?
J'ai eu peur.
On l'enregistre parce que pour le coup, il y aura deux paris, deux résultats de paris quand ils vont rejouer le match. Ce sera au mois de janvier.
Voilà, et il y aura le tirage au sort de la Coupe de France à 20h30, les 32e de finale, avec le Toulouse Football Club, les clubs de Ligue 1 qui entrent en lice. Le TFC va gagner la Coupe de France.
Hein. Non.
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 On
non,
pas. Allez,
mais
on
non, mais non, pas. Mais non, mais non, mais si, tellement
mais
pas.
Si, mais bien sûr
que si, s'ils croisent pas le FC Sochaux,
ils vont taper Paris.
Ah, voilà, on verra bien. Hein. Vous êtes ambitieux quand même.
Mais il faut, c'est important.
Ouais.
Toujours. Bon. J'espère que vous êtes prêts, messieurs, pour cette nouvelle émission. On démarre maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué dans la semaine. Et ce soir, vous n'êtes pas content, messieurs, pas content du tout. Je vous vois faire la tête, Lucas Serdic. On va commencer avec vous. On vient de parler justement de ce match TFC Lyon parmi les 6 matchs de Ligue 1 reportés. C'est votre coup de gueule de la semaine, les matchs de Ligue 1 reportés ce week-end.
Bah oui, j'étais triste enfin ce week-end. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi soir quand il n'y a pas de Ligue 1, le dimanche soir quand il n'y a pas de Ligue 1, le samedi après-midi quand il n'y a pas de Ligue 1. Enfin, c'est terrible quand même, non? Vous avez pensé à moi un petit peu, à ma pauvre santé? Non, ça va pas. 6 matchs reportés sur 10, c'est triste. Voilà, dans un climat où, enfin, le pays va au niveau d'une crise sociale, on va dire, une crise de politique. Bon, bref. Et voilà, ça s'est déplacé jusqu'au terrain avec les forces de l'ordre qui ont été obligées d'être mobilisées un petit peu partout en France, notamment à Paris pour éviter de gros débordements, à Toulouse, à Bordeaux. Et cette absence des forces de l'ordre a fait que certains matchs sont passés à la trappe et pas n'importe lesquels. Hein. PSG Montpellier, on attendait.
Le premier contre le deuxième. Enfin.
Voilà, on attendait ce match-là.
Il y avait un
point
d'écart.
On attendait à ce que Montpellier se confronte un petit peu au PSG. Ils avaient un gros calendrier en cette fin de saison. On en a parlé ici même. Et on s'est dit.
Ils vont jouer Lyon aussi encore.
On s'était dit, est-ce que Montpellier, ce sera un feu de paille ou est-ce que, voilà, à la trêve, ils seront toujours dans les 5 premiers. C'était une question. Bon, là, ce match-là, on l'a pas vu. Saint-Etienne-Marseille, on n'a pas vu Monaco-Nice non plus. Et puis alors pour nous, Toulousains, Toulouse-Lyon, c'était quand même l'occasion de se mesurer à une grosse équipe à domicile, de confirmer la victoire à Reims qui était n'était pas très belle, mais qui a le mérite d'exister. Et on n'a pas pu le voir, c'est dommage.
Et surtout de prendre Lyon à 3 jours à ce moment-là d'un match de Ligue des Champions où on pouvait imaginer qu'ils avaient la tête à la Ligue des Champions cette semaine, ce qui ne va pas être le cas pour les matchs reportés. C'est mi-janvier, le 15-16 janvier normalement.
Ouais, mi-janvier, c'est ça. Non, mais voilà, c'est un peu dommage. Et puis, voilà, le seul avantage qu'on peut effectivement en tirer, c'est que pour Lyon ou pour le PSG qui ont des matchs capitaux à jouer en Ligue des Champions, voilà, ça va leur permettre d'être un petit peu plus reposés. Mais bon, pour nous, c'est dommage. On avait envie de voir ces matchs-là. Et puis, ça nous donne un peu moins de choses à commenter ce lundi.
Timothée Rouvière, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end alors sans la Ligue?
Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Moi, je me suis intéressé au biathlon.
Le biathlon.
À Poljuka en Slovénie.
C'est votre coup de cœur.
C'est mon coup de cœur.
Ouais, c'était pas beaucoup plus réjouissant quand même.
Non, si, c'était beau. 5 podiums pour les Français. Donc Martin Fourcade qui a gagné sur l'individuel. Quentin Fillon-Maillet qui a décroché une belle deuxième place sur la poursuite derrière Johannes Bö. Justine Brezaz, la petite Française là, qui a accroché une belle troisième place sur le sprint. Et Antonin Guigonin, notre
moi, c'est mon chouchou, je l'aime bien.
Qui a accroché la deuxième place sur le sprint. Donc, plutôt un beau résultat d'ensemble pour les Français. Mais c'est un peu paradoxal parce qu'on voit un Martin Fourcade qui est totalement hors jeu. Alors, oui, il a gagné l'individuel, mais il a abandonné lors de la poursuite et 24e lors du sprint.
Parce qu'il était loin après le sprint qu'il a abandonné sur la poursuite.
C'est vrai aussi, mais on n'est pas habitué. On a
fait deux fois
un Martin Fourcade qui domine toute la saison.
Quand on voit la régularité dont il a fait preuve l'année dernière, surtout, c'était vraiment frappant. Là, on se dit, oui, attention.
Là, ça fait deux fois qu'il est en difficulté.
C'est juste la sprint qui fait 24e.
Ouais,
et la poursuite, vu que c'est avec les résultats
avec
du sprint
voilà. Ça dépendait, d'accord, ok.
Il a dû attaquer au début, il a loupé quelques cibles et il a arrêté, quoi.
Et ce qui est inquiétant pour Martin Fourcade, c'est qu'il comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Sur les skis, ça suit pas trop. Il était à plus d'une minute de Johannes Bö sur le sprint. Derrière les cibles, il en loupe une ou deux. Donc c'est assez inquiétant pour Martin Fourcade. Et moi, j'aimerais surtout souligner la performance de Quentin Fillon-Maillet sur la poursuite. Tout à fait. Donc le finish est assez incroyable quand même parce que Johannes Bö est en tête, il est largement en tête, il a une minute d'avance sur Loginov et Quentin Fillon-Maillet, et là il fait deux fautes lors du dernier tir. On se retrouve avec trois hommes en tête, Loginov, Fillon-Maillet et Bö. Et Fillon-Maillet se retrouve un petit peu décroché à 2-3 secondes des deux fondeurs, et Loginov est alors en tête. On pense alors que le Russe va gagner, mais il chute dans la dernière montée, et c'est finalement Bö qui l'emporte juste devant Fillon-Maillet à la photo finish. Donc belle fin de course de Quentin Fillon-Maillet. On voit que la relève est là malgré les mauvaises performances de Martin.
Je veux ajouter juste un tout petit quelque chose. Je serais pas inquiet si Martin Fourcade n'avait pas changé d'entraîneur en intervenant en cours de saison. C'est le seul truc qui m'inquiète un petit peu, parce que quand on change d'entraîneur, on change de méthode. Et même si c'est un très grand champion, ça va forcément un peu le perturber. Ça va pas faire en sorte qu'il va louper complètement sa saison, mais ça va peut-être faire en sorte que Johannes Bö l'emporte, parce que lui, c'est un monstre de régularité aussi. L'année dernière, il l'a prouvé et il a l'air d'être bien parti encore cette saison. Voilà, ça va peut-être le priver du gros globe. On verra.
Timothée Rouvière.
Oui, je pense que Martin, il faut qu'il commence à se faire vieux, il a presque 30 ans. Je pense qu'il faut qu'il arrive s'il trouve que c'est trop compliqué, s'il arrive plus à être régulier sur les courses et les week-ends de Coupe du Monde, il faut qu'il se concentre sur les championnats du monde qui auront lieu en mars.
On verra bien. C'est bien, bien trop tôt pour dire ça, mais.
C'est vrai que c'est trop tôt, mais voilà, après, il faut qu'il voit ça avec ses entraîneurs et qu'il arrive à rectifier le tir. Mais en tout cas, la relève est là, du côté des hommes et du côté des femmes aussi.
Je vois Jean frétiller là. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un coup de cœur, un coup de gueule aujourd'hui?
J'ai exceptionnellement un coup de cœur.
Ah voilà, c'est je me disais qu'il y avait quelque chose qui était étrange dans votre comportement.
Je suis trop content, c'est ça.
Vous avez l'air tout content là.
On voit faire des signes dans tous les sens, on sait pas ce qui se passe.
J'ai exceptionnellement un coup de cœur. J'en avais donné un il y a pas longtemps.
Oui.
Là, j'ai envie de parler de hockey sur gazon, c'est dans l'actualité.
Ouais.
J'ai découvert ce sport grâce à Sébastien Brossard.
Ah ben voilà, non, c'est pas de ma famille.
Voilà, mais comme il m'a dit, lui c'est le vrai, comme il y a le Ronaldo. Il m'a dit vous étiez un peu le Cristiano Ronaldo, lui c'est le vrai Brossard.
Ah oui, d'accord.
C'est le vrai Ronaldo.
Moi, si je suis Cristiano, ça va.
Il m'a fait découvrir le hockey sur gazon et quel exploit l'équipe de France qui a battu l'Argentine, championne olympique, pour se qualifier pour les huitièmes de finale.
Du mondial.
Du mondial. Mmh. On le rappelle, l'équipe de France n'a jamais réussi à faire un podium, que ce soit en Coupe du Monde, au Championnat d'Europe, aux Jeux Olympiques. C'est seulement leur troisième Coupe du Monde après 1970 et 1990. Exploit, deuxième exploit, aujourd'hui la France vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de hockey sur gazon en battant la Chine 1-0. Le problème, il arrive en quart de finale, c'est qu'en quart de finale l'équipe de France va affronter l'Australie. C'est un mélange des All Blacks, de l'Afrique du Sud, c'est le gros poisson. Ils sont double champions du monde et ils ont battu la Chine en phase de poule 11-0. Oh là. Donc voilà, c'est mercredi.
Il y a un monde d'écart quand même.
Il y a un gros monde d'écart, mais le fait de faire un quart de finale de Coupe du Monde, quand ça fait plus de 28 ans qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde, c'est quand même une très grosse perf. Quart de finale, mercredi à 14h30 chez nos confrères de l'équipe.
Ah, c'est bien. C'est
Timothée Rouvière.
Surtout, je crois savoir que le hockey sur gazon n'est pas un sport professionnel, donc c'est une belle performance pour l'équipe de France.
Grosse performance, jamais un podium, hein, je le répète, que ce soit les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde ou les Championnats d'Europe. Donc, déjà d'arriver en quart de finale, c'est la 20e nation mondiale et dans le top 8. Donc, ouais, déjà, l'exploit, il est là, il est fait. Maintenant, le match contre l'Australie, c'est que du bonus. Ça va peut-être finir en match de basket.
C'est jamais.
Le sport est tellement beau qu'on n'est pas là. Abri d'un
exploit,
d'une grande surprise une nouvelle fois.
Vous avez dit c'est l'All Black, ça sera quand en 99 ou en 2007 avec le rugby.
Exactement.
On va faire tomber.
Exactement. On en reparlera la semaine prochaine. Maxime Brossard, gardez la parole parce que vous n'êtes pas content. Moi je suis content, mais vous n'êtes pas content.
Pas content.
On va parler de rugby et de Colomiers.
C'est plus un coup de larme, on va dire. Ouais, c'est Colomiers qui est avant-dernier du classement de Pro D2, qui est 15e avec 21 points. Les Columérins qui restent sur trois défaites de rang, dont deux à la maison, la dernière vendredi dernier contre Bayonne, 0-6, ouais, ils ont pris les pauvres. Moi, c'était pas un match fantastique en plus.
Et ce c'est matin, très rare quand même,
c'est rare,
qui se termine à 6-0. Hein.
Ouais, c'est rare, mais voilà, les conditions étaient la pluie et puis des équipes, enfin surtout l'équipe de Colomiers qui je pense, savait déjà peut-être qu'il allait arriver ce matin, avec notamment, on a appris le manager Olivier Baragnon qui a été écarté. On avait eu un invité au téléphone. Il a été écarté selon la dépêche du midi. Apparemment, ce serait en lien avec le vestiaire. Il y aurait eu un peu de pression de la part des joueurs pour l'écarter. Donc là maintenant c'est anciens adjoints qui prennent le relais, c'est Julien Sarotte et Marc Dantin. Julien Sarotte s'occupait des trois quarts et Marc Dantin des avants. Donc Julien Sarotte lui va devenir entraîneur principal, Marc Dantin va s'occuper des avants, même si Sarotte va continuer aussi un peu à avoir un œil sur les trois quarts. Voilà, Baragnon, ça s'arrête, ça fait un an et demi qu'il était arrivé. Et il quitte le banc de Colomiers. Il faut dire que c'était compliqué pour lui aussi parce qu'il passe après quelqu'un comme Bernard Gouta, qui est quand même un sacré client et qui maintenant fait le bonheur de Clermont. On voit les résultats de Clermont aujourd'hui.
Il fait des gros résultats avec Colomiers.
Ouais, et puis là, on voit sa patte sur le jeu des avants à Clermont quand même. C'est assez impressionnant. Et donc voilà, il y aura un beau match ce vendredi, Massy contre Massy, le match de la peur. Donc on espère que peut-être c'est cette décision qu'a pris les dirigeants colomérins, ça fera un électrochoc parce que Massy est dernier. Et s'il venait à battre Colomiers, l'étau va se resserrer encore un petit peu plus. Et ça serait bien dommage de voir un club historique redescendre en fédéral 1. Ça ferait mal au cœur. Ouais.
Colomiers qui a été finaliste du championnat de France à maintes reprises.
Finaliste à plusieurs reprises. On va gagner le challenge européen. C'est quand même une équipe incroyable, quoi.
Merci Maxime Brossard, merci messieurs pour ces coups de cœur et ces coups de gueule. On se retrouve nous dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite. Feel the magic in the air, aïe aïe aïe, levez les mains en l'air, allez allez allez. Feel the magic in the air, aïe aïe aïe, levez les mains en l'air, allez allez allez.
pas seulement pour les bobos. Nous on vient d'un nous mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler.
C'était Magic System sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé sur Radio Présence avec vous, Didier Rubio. Cette semaine, on va parler gluten. Alors, voilà, on en entend parler dans le sport, beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que c'est ?
Bonsoir Jean. Alors le gluten, effectivement, c'est très débattu. On en entend énormément parler, c'est vrai, dans le monde sportif. Alors le gluten, c'est contenu dans les céréales comme le blé, l'orge et le seigle, et en très petite quantité dans l'avoine. Et c'est une matière un peu élastique qui a une capacité donc à donner de l'élasticité, par exemple, à du pain ou à des céréales ou autre. Si on doit retenir quelque chose, il faut bien différencier la vraie intolérance au gluten, c'est-à-dire que c'est une pathologie réelle, grave, il faut le dire, qui concerne très très peu, un pourcentage très faible de la population. Lorsque les gens sont intolérants au gluten, c'est une hospitalisation et puis après un régime où on ne peut pas tolérer du gluten. Très strict, très très strict. Et il y a une sensibilité au gluten, c'est-à-dire qu'on appelle sensibilité au gluten non cœliaque, l'intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque. Donc lorsque l'on est sensible au gluten non cœliaque, ça veut dire qu'on a du mal à bien accepter le gluten, mais par contre, on risque rien. Ça veut dire qu'on va avoir des ballonnements, des gaz, ou des flatulences, ou des douleurs abdominales. Donc parfois, quand les gens limitent, par exemple, les pâtes, le blé, le pain, ben, ça s'améliore.
Vous avez un exemple, par exemple, sur l'intolérance au gluten ?
Ah oui, moi ça m'a marqué, il y a une anecdote incroyable quoi, au niveau de l'intolérance au gluten. Il y avait une dame qui donc faisait son régime très strictement, et heureusement pour elle, parce que sinon ça allait mal. Et en fait elle était toujours malade, donc avec des problèmes de diarrhée incroyables, des problèmes digestifs terribles. Et en fait lorsqu'ils ont vraiment vraiment pointé du doigt tout ce qu'elle mangeait, tout, eh bien c'était, quand elle allait à la messe, l'hostie étant composée de blé et d'eau, on s'est rendu compte que c'était
donc il y avait le gluten.
Et il y avait le gluten dans l'hostie. Et alors bon, cette dame a fait autrement, hein. Elle a continué à la messe. Mais en tout cas, on avait dépisté ça. Mais quelqu'un qui a juste une sensibilité au gluten, c'est pas du tout la même histoire. Donc vraiment, si les gens s'interrogent, il y a un test qui s'appelle un test à l'alpha transglutaminase et endomysium. Il faut aller dans un service de gastro-entérologie. Si on mesure ça et qu'il est positif, peut-être qu'on peut penser qu'on a un problème. Sinon, non. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un effet de mode. Et des personnes qui sont sensibles, elles peuvent réduire le gluten. mais ne surtout pas comparer avec la maladie cœliaque.
Justement, vous venez de parler d'effet de mode. Il y a un autre effet de mode avec le gluten, c'est le régime sans gluten. Qu'est-ce qu'il en est ?
Eh oui, alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les gens qui vont, par exemple, faire attention au gluten, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont enlever, par exemple, les pâtes, toutes les pâtes feuilletées, tout ce qui concerne où il y a du blé, ils vont enlever aussi le pain, et en fait, ils vont se trouver mieux, tout simplement parce qu'ils vont perdre du poids un petit peu, et ils vont avoir une sensation de vitalité. Ils vont penser que c'est le gluten. C'est pas forcément ça, c'est que rien que le fait d'enlever tout ça fait que déjà on va perdre du poids. Donc,
parce que c'est primordial pour le corps d'avoir du gluten, sauf si on est, bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, intolérant.
Voilà, après le gluten, c'est pas gênant. C'est la céréale, de toute façon, elle en contient. Elle en contient, voilà. Après, dans le pain, parfois, il y en a un petit peu plus parce que la fabrication, ils rajoutent du gluten pour l'élasticité. Donc, parfois, les gens ne le supportent moins. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas de raison de faire, comme vous disiez, un régime sans gluten pour aller mieux. S'il n'y a pas de problème.
C'est des idées reçues.
Il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Voilà, il faut étudier chaque individu et sa tolérance.
Didier Rubio, merci.
Merci, avec plaisir.
Je rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien ? L'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdic. On va parier, je crois, sur le football, mais on va commencer rugby, c'est bien ça ?
On commence toujours par le rugby.
Tout le temps, heureusement.
C'est quand même bien, un grand classique, surtout qu'on a eu un week-end riche de Coupe d'Europe et ça va continuer ce week-end. On va parler évidemment de la Champions Cup avec Toulouse qui va accueillir les Wasps après avoir gagné là-bas en Angleterre 24-16. Le match, ce sera samedi à 16h15. Donc au stade Ernest Vallon. On peut dire que les Toulousains ont fait
un pied, trois orteils.
Ils sont très très bien partis dans cette Coupe d'Europe. Trois matchs, trois victoires. Et en plus de ça, ils vont avoir deux réceptions. Là, pour cette phase retour, c'est la quatrième journée de Champions Cup. Juste après, Castres va accueillir le Munster à 18h30. Là, par contre, pour les Castrais, c'est un peu plus compliqué, étant donné qu'ils se sont pris une petite raclée, on peut le dire, la semaine dernière.
Ça a été fessé, on peut
voilà,
le dire.
En Irlande, 30-5. Pour les autres clubs de Champions Cup, on a aussi un duel franco-français. Montpellier qui va accueillir le RCT. Ce sera dimanche à 16h15, alors que Toulon a battu Montpellier 38-28 la semaine dernière dans le Var.
Petit exploit,
mais bon, ça veut dire aussi que nos deux clubs français sont pas hyper bien partis dans leur poule de Coupe d'Europe. C'est un peu dommage. En Challenge Cup, on va avoir un autre duel franco-français, ce sera Agen qui va accueillir Grenoble vendredi à 19h30, alors que les Grenoblois se sont imposés 22-15 la semaine dernière à domicile et qui sont un peu mieux partis que les Agenais dans leur poule de Challenge Cup pour se qualifier. On a également Pau qui va se déplacer à Worcester alors qu'ils ont gagné 21-6 la semaine dernière à domicile. Les Palois, ce sera samedi à 16h. En dehors de la Coupe d'Europe, on a de la Pro D2. Parce que puisque quand il n'y a pas de top 14, il y a de la Pro D2. Heureusement, hein, on aime bien ça.
avec Colomiers
justement qui va se déplacer à Massy à 20h vendredi soir. On en a déjà parlé, je ne vais pas encore en reparler, mais c'est le match de la peur entre le dernier et l'avant-dernier. On a aussi Montauban qui va se déplacer à Oyonnax. Ce sera dimanche à 14h15. Montauban qui est 10e sur 16, qui s'est imposé justement face à Massy la semaine dernière 15-9. Petite victoire pour les Montalbanais qui mériteraient bien de remonter encore un petit peu au classement. Et on a deux matchs de Fédéral 1 qui vont nous concerner dans la région. C'est deux matchs qui devaient jouer ce week-end mais qui ont été reportés. Nîmes, Saint-Sulpice-sur-Lèze et Aubenas, Groslay. Les deux matchs se passent dimanche à 15h. Ça concerne la poule 3 de Fédéral 1 qui va vivre la trêve là maintenant.
C'est la trêve.
On va être tranquille jusqu'en janvier après au niveau de la Fédéral 1 de rugby. On passe au foot maintenant donc avec la Ligue 1. Avec la Ligue 1.
On part sur la Ligue 1.
La Ligue 1, le TFC qui va se déplacer à Caen samedi à 20h dans le cadre de la 17e journée. On l'a dit, le TFC qui n'a pas joué le week-end dernier pour le compte de la 16e journée face
perdu.
À Lyon. Qui n'a pas perdu. C'est sûr qu'on peut le voir comme ça. Mais le TFC qui va se déplacer à Caen, qui peut être considéré comme un concurrent direct dans l'optique d'un éventuel maintien. Donc ce serait bien pour les Toulousains de faire quelque chose à Caen comme ils l'ont fait à Reims il y a a un peu plus d'une semaine. Et on va parler vite fait aussi de National 2, puisque Colomiers va se déplacer sur la pelouse d'Andrézieux. Voilà, ils n'ont pas joué le week-end dernier. C'était repos parce qu'ils n'étaient pas qualifiés en Coupe de France. Ça se jouera samedi, ce match de National 2. Un petit mot de hand quand même.
On finit par le hand après le Paris. Le hand,
voilà, on se dépêche. Parce que le hand, Toulouse va jouer deux matchs cette semaine. Un en Coupe de la Ligue, ce sera mercredi à 20h30. Et ce sera un petit choc quand même, puisqu'il se déplace à Montpellier.
Même si
Montpellier va pas très 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 bien en ce moment. Mais Toulouse va mieux. Toulouse va mieux, puisqu'ils ont emporté leur deuxième victoire consécutive en championnat. Ils sont allés gagner à Istres 27-22. Et ils remontent un petit peu au classement. Ouais, ils sont 11e maintenant. Voilà, 11e sur 14, c'est toujours ça. Avec deux victoires et deux matchs nuls. Le reste, bon, ce sont des défaites, mais on le dit pas trop fort. Trois jours plus tard, ils vont jouer en Coupe de France. Pardon, pour la Coupe de Ligue, c'était un quart de finale quand même, face à Montpellier.
Donc, une place pour le Final Four de la Coupe de Ligue.
Exactement. Et trois jours plus tard, donc samedi, ils vont se déplacer à Nice. Ça fait deux beaux déplacements pour les Toulousains. En 16e de finale de la Coupe de France cette fois. On souhaite bonne chance à nos Toulousains. Et vraiment très brièvement, on parle de hockey parce que Limoges devait accueillir les Belugas ce week-end. Ça a été reporté là aussi à cause des gilets jaunes.
Avec les gilets jaunes, et là c'est ce week-end. Voilà, j'espère que Limoges aura une défense aussi solide que les gilets jaunes, parce que ça va être compliqué pour les Limougeaux, parce que TBH est en grande forme.
À l'aller,
il y avait eu 10-1, ouais. Donc bon,
voilà.
On va faire un barrage, mais sur la glace, pas sur le rond-point.
Le TBH qui va continuer son parcours en Division 2 de hockey.
Pour finir, messieurs, on va partir sur le Paris.
Paris.
On avait prévu du football la semaine dernière. Ça a été reporté. On reste sur le football, on reste sur le TFC. Quand Toulouse,
moi je dis un petit partout.
Maxime, quand Toulouse, allez, je vais dire 2-1 pour Caen.
2-1 pour Caen, un partout pour Lucas Serdic, Timothée Rouvière.
Moi je dirais 2-0 pour Toulouse, je suis optimiste.
2-0 pour Toulouse, je vais être optimiste, mais moins fort quand même. Le 1-0 sur coup de pied arrêté à un quart d'heure de la fin. Il passe clean. Si ça passe, ça, les gars.
Oui, c'est joli.
Ça passe, c'est très joli. La réalisation, Grégoire.
Alors, 2-1 pour Caen, je suis désolé.
2-1 pour Caen.
Bravo,
on voit le Toulousain. On voit le Toulousain. Bravo.
Le traître des Toulousains.
Et la Paloise.
Et la Paloise, elle va dire 2-1, mais pour Toulouse.
Ah, ouais. Quand même. C'est mieux. C'est mieux.
Et notre invité, quand même.
Et notre invité. Bonjour, Daniel
Pi. Bonjour. Moi, je vois un match nul, un partout.
Aussi, comme Lucas Serdic.
Personne ne marque dans ces deux clubs, alors.
C'est pas faux. C'est pour ça qu'ils sont en dessous. Hein, mais...
voilà. Donc, un partout. On pensera à vous aussi, un partout, la semaine prochaine. On va démarrer tout de suite avec le seul débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
Vainqueur des WAPS ce week-end, le Stade Toulousain affiche une forme exceptionnelle, que ce soit sur le plan national ou sur le plan continental. Deuxième de top 14 et leader de sa poule en Champions Cup, les Rouges et Noirs vont avoir en 2019 un calendrier surchargé avec en plus des week-ends de doublons avec le tournoi des 6 nations. Messieurs, question simple et vous commencez à avoir l'habitude et comme toujours, on répond que par oui ou par non et ensuite nous débattrons. Le Stade Toulousain va-t-il devoir choisir entre le championnat de France et la Coupe d'Europe? Lucas Serdic.
Non.
Maxime Brossard.
Oui.
Et Timothée Rouvière. Pensif, ouais. Timothée Rouvière.
Oui, oui et non, moi je dirais.
Oui et non. L'arbitre, quoi.
L'arbitre, entre les deux.
Et pourquoi oui et non?
Alors pourquoi oui? Parce que le Stade Toulousain, pour moi, n'a pas l'effectif suffisant pour tenir sur les deux compétitions. Moi je pense qu'il y a des très bons joueurs à chaque ligne, mais surtout sur les lignes arrière, avec les blessés qu'il y a eu notamment au centre, on pense à Théo Belland. Et sur les ailes, pour moi, c'est un petit peu court, c'est un petit peu jeune, et pour tenir sur la distance, ça va être compliqué. Mais je vois aussi un Stade Toulousain exceptionnel, avec 3 victoires en 3 matchs en Coupe d'Europe, 2e du championnat de France, donc je me dis pourquoi pas.
Non, mais non. Voilà, pour reprendre sur les arguments de Timothée sur le oui, ils vont devoir choisir à cause, par exemple, des doublons ou quoi. Ils ont prouvé là déjà sur les doublons qu'ils avaient un effectif sympa. Ils pouvaient faire jouer les jeunes. En plus de ça, ils avaient beaucoup de blessés. Ils ont quand même enchaîné des très bons résultats pendant la période de doublons. Je pense pas qu'ils vont devoir choisir. Après, peut-être qu'ils ne vont pas avoir le choix. Mais je pense pas que ce soit une bonne tactique de faire le choix avant qu'ils ne s'imposent à eux-mêmes. Voilà. Si jamais à un moment donné ils ont un coup de mou, si jamais à un moment donné ils voient qu'ils peuvent se permettre en championnat peut-être de relâcher un peu du lest, ou en Coupe d'Europe qu'ils sont déjà qualifiés, voilà, éventuellement là ils pourraient se dire ok, on va souffler, mais ils vont pas devoir. La dynamique est bonne, le fait de gagner en Coupe d'Europe, ça donne de la confiance, c'est un cercle vertueux. Donc voilà, s'ils se mettent à choisir leur match, voilà, le seul match qu'ils ont choisi cette année,
c'était Montpellier.
J'adore voilà. Sortir cet exemple parce que pour moi il est très parlant, c'est le déplacement à Montpellier. C'est une raclée reçue à Montpellier. Je pense pas que ça ait servi à grand chose de mon point de vue.
Maxime Brossard, le stade est deuxième, on le rappelle, de top 14. Presque parfait ce début de saison. En plus, on en a parlé tout à l'heure avec la Coupe d'Europe, 3 matchs, 3 victoires dans la poule du double champion d'Europe en titre. Voilà, pour l'instant, ils sont capables de jouer sur les deux tableaux.
Alors, oui, je suis d'accord sur le fait qu'ils sont capables de jouer sur les deux tableaux, mais qu'ils jouent une compétition, pour moi, c'est surtout, je m'imagine, surtout qu'ils vont la gagner, je veux dire. Pour gagner, je pense qu'il va quand même falloir faire le tri, parce que, en fait, le problème du Stade Toulousain, c'est que la première phase de doublon, finalement, il n'y avait pas tant de Toulousains que ça qui avaient été appelés en équipe de France. Et là, je pense que les bons résultats vont encourager Jacques Brunel à appeler plus de Toulousains.
Le sélectionneur de l'équipe
de France dans le 15 de France. Donc, je pense que la période du 6 Nations risque de peser peut-être un petit peu plus dans les jambes des Toulousains.
Il va y avoir 2-3 doublons, c'est ça, pendant le tournoi de destination.
Oui, je pense, j'ai dit pas de petit, 2, il me semble.
Il y en a 2, hein. Ouais. Il y en a 2. Ça risque d'être compliqué pour le stade s'il y a beaucoup d'internationaux, Timothée Rouvière.
Oui, ça risque d'être compliqué parce qu'on sait que qu'en plus que de l'équipe de France, il y a aussi des joueurs comme Richie Gray qui risquent d'être appelés. Parce qu'au Stade Toulousain, voilà, on a des Écossais, on a Leonardo Giraldini au poste de talonneur. Donc ça risque d'être un peu compliqué, mais comme on l'a dit en début de débat, ils ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils avaient la possibilité de gérer ces doublons, mais on verra qu'est-ce que ça donne ensuite.
Ouais, après c'est vrai que c'est de toute façon c'est cette période charnière, cette période des doublons, et je pense qu'il va falloir peut-être revoir soit les ambitions à la baisse ou à la hausse en fonction des choix que va faire Jacques Brunel au prochain 6 Nations. Mais après, finalement, si le nombre de Toulousains est constant en équipe de France, là du coup je pencherai du côté de Lucas, et je pense qu'ils peuvent faire de grandes choses, tant sur le plan européen que sur le plan national.
Sur le plan national, est-ce qu'ils peuvent baisser le pied? Je vais me faire l'avocat du diable. On le rappelle, nos voisins castrés ont été champions de France en étant... Timothée Rouvière.
C'est vrai.
Ils ont été 6e du championnat, ils ont été champions de France. S'il y a un avantage de faire ces play-offs, que personnellement je n'apprécie pas, c'est bien ça, c'est-à-dire de baisser le pied sur les week-ends de doublons pour se pencher sur la Coupe d'Europe. Est-ce que finalement il ne faut pas baisser le pied à un moment donné? On va dire qu'ils ont une avance qui n'est certes pas conséquente, mais elle est là.
Oui, non, mais ça peut être une solution, mais pas tout de suite, pas à ce moment-là de la saison, c'est beaucoup trop tôt, ils n'ont pas encore une avance suffisamment conséquente, mais voilà, on n'en sait rien, on ne sait pas comment ça va se passer, et je n'ai pas le calendrier exactement en tête, mais si à un moment donné, il y a un match très important en Coupe d'Europe qui se profile, que le Stade Toulousain a un nombre assez conséquent de points d'avance en championnat, pourquoi pas envisager cette solution-là? Mais voilà, le risque, c'est de prendre un revers cinglant et de casser une bonne dynamique et d'influer sur le moral de l'équipe.
On part d'un revers cinglant, on a parlé de Montpellier, finalement ils ont pris une très grosse claque à Montpellier, ça leur a pas empêché d'aller de l'avant juste derrière, parce que et d'être leader en Coupe d'Europe et deuxième au top 14.
Ouais, parce que je pense que là, c'est par rapport au match de Montpellier, c'était vraiment, ils avaient envoyé des jeunes au casse-pipe, quoi. Ils avaient vraiment envoyé une équipe qui, bon, c'est des jeunes qui ont du temps de jeu, mais finalement, ils ont pas tant de, c'est pas des cadres de l'équipe qui ont subi la défaite. Donc, finalement, la remise en question, elle a été un peu plus pour les jeunes, elle était un peu plus dure à digérer pour eux. Mais je pense que finalement l'après-défaite, choc à Montpellier a été bien géré par le staff. Je pense qu'ils ont réussi à retrouver les mots pour les remettre en confiance, et voilà, on a vu que c'est bien reparti par la suite.
Moi, ce que j'aime bien dans ce Stade Toulousain, c'est qu'on retrouve la fameuse maxime jeu de main, jeu de Toulousain.
Ah oui.
Avec encore un essai de Chelsea Colby extraordinaire ce week-end. On a des trois quarts qui aiment jouer. On retrouve un Maxime Mermoz comme à ses plus belles heures. Donc c'est vrai que ça fait plaisir.
Ouais, mais oui, en fait. Mais après, surtout au-delà du jeu de main, jeu de Toulousain, je pense que ce qui a été important sur le match des Wasps, ce qu'on a vu, c'est la qualité de la défense et du combat aussi. Parce qu'on dit souvent jeu de main, jeu de Toulousain, mais on sait tous que le rugby, ça commence devant. Et la force du Stade Toulousain aussi à la grande époque, c'était d'avoir des guerriers devant qui étaient capables de vous gratter tous les ballons, puisque finalement les trois quarts souvent sont ceux qui brillent, mais finalement le travail de l'ombre il vient des avant. Donc ça a été vraiment la guerre des rugs contre les Wasps. Ils s'en sont très bien sortis et ils ont surtout très bien tenu le score en défense à la fin du match. Ça a été un peu plus compliqué.
Lucas Sardic.
Pour revenir sur ce que je disais, le fait qu'à mon avis ils ont un effectif pas si restreint que ça, il y a eu des joueurs aussi dont on s'attendait pas à ce qu'ils reviennent à ce point-là en forme et qui sont là et qui apportent une plus-value incroyable à ce groupe. Tu parlais des trois quarts, ouais. Je pense notamment à Sofiane Guitoun qu'on voit tous à un niveau dont on espérait jamais qu'il y revienne, quoi. Donc ça peut aussi aider le club cette saison.
Messieurs, on va se mettre à la place d'un supporter.
Ouais.
Si on n'avait pas le choix, il fallait choisir entre le top 14 et la Coupe d'Europe. On avait eu ce débat avec l'Olympique de Marseille courant septembre-octobre. Mmh. Voilà, il faut choisir quoi ? Le championnat de France, le top 14, ou la Champions League, la Coupe d'Europe, Lucas ?
C'est difficile à choisir parce que tout 19 mois de champion de France et 4 fois champion d'Europe. Pour moi, avoir la 20e au top 14, ça serait parfait.
Déjà, t'as tout dit. C'est la 20e et puis c'est le bouquet de Brennus, quoi. C'est mythique, quoi. Rien que déjà le bouclier en lui-même, l'objet. Tout gamin qui joue au rugby, je pense, il rêve de gagner le bouclier de Brennus. Enfin, je parle pour les Français avant de vouloir gagner la Coupe d'Europe.
Ouais. Et je suis d'accord avec vous, étant donné que ça fait quand même un petit moment que le Stade Toulousain ne l'a pas gagné, il me semble 2011, mais j'ai pas envie de dire de bêtises.
2011.
Donc effectivement, pour un club comme le Stade Toulousain, ça fait une pénurie qui est un peu trop longue.
Ouais. Et puis revoir de monde sur la place du Capitole, faire la fête, ce sera magnifique.
Et pourquoi pas réaliser un doublé comme le dernier club français à avoir réalisé le doublé championnat et Coupe d'Europe, c'est le RC Toulon en 2014, et le premier club à l'avoir fait. Mine de rien, ça reste le Stade Toulousain en 1996. Pourquoi pas réaliser
la Coupe d'Europe 96, c'était Gigo Haricot.
On est d'accord. C'est l'équivalent de la Ligue des Champions.
L'église 80. Au centre du village.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est l'équivalent de la Ligue des Champions 93 pour l'Olympique de Marseille.
Ouais, ouais.
On se retrouve dans moins de 4 minutes avec notre invité Daniel Pide, ancien délégué de la LFP.
By the meeting of the roads, I just fell to my knees when I knew I had to make a choice. It's a shame, you said, that I may never know how far I can sometimes go. How far I can sometimes go. Just a word that I could keep, or just a word that I could keep. And while my boat is drifting away by the shore of Miami Bay, I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. A comet to crash on your field, just to be remembered. And I wish I was a comet to crash at your feet. Starting to say.
C'était Comet sur Radio Présence.
Sportez-vous bien. L'invité.
Aujourd'hui retraité, l'activité de notre invité est essentielle à la bonne tenue d'un match de football professionnel en France. Poste à responsabilité, il est pourtant méconnu du grand public. Les délégués LFP, les hommes en costume sur le petit banc entre ceux des deux équipes, doivent avoir l'œil et les oreilles partout pendant un match. Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
On parle bien d'une activité, hein, c'est pas un métier.
Ah bien sûr, c'est une activité.
Ça veut dire qu'elle n'est pas rémunérée ?
Elle n'est pas rémunérée. Nous percevons des frais de déplacement et des frais de logement. Rien ouais, final, donc, rien d'autre.
C'est mieux d'être. Est-ce que c'est pas mieux d'être professionnel finalement ?
Non,
pas
non.
du tout.
Non, parce que je me vois mal en étant salarié de la LFP, professionnel,
de la LFP.
Avec un président qui est membre du conseil d'administration de la LFP. Lorsque j'ai peut-être quelque chose à lui dire de
pas sympa.
Forcément sympa ou d'agréable, parce qu'il va chahuter quelquefois en parole un arbitre, ça serait difficile de dire ça à mon employeur.
C'est compliqué.
C'est impensable.
C'est infaisable. Maxime Brossard.
Est-ce qu'il y a des ligues où justement les délégués sont professionnels ?
Ma connaissance, je ne peux pas vous répondre. Ah ouais, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas des délégués comme en France dans tous les pays.
D'accord. Ah ouais. Voilà.
Mais c'est quoi exactement le rôle d'un délégué LFP justement en France ?
Le délégué, comme dirait Frédéric Thiriez, c'est le préfet de la Ligue.
Ah d'accord. Ouais.
Vous voyez ce que fait un préfet ? Ouais. Sur un match de foot, on fait la même chose. On est responsable de toute l'organisation. Et aujourd'hui, avant tout, de la sécurité.
Encore plus en ce moment, avec les événements, on parlait des reports de matchs. Est-ce que c'est en lien, justement, les reports avec la déléguée ? Il y a les préfectures, mais est-ce que les préfectures, les préfets, voient avec les clubs les déléguées ou pas du tout ? C'est totalement indépendant.
Je n'étais pas présent sur cette saison, mais pour les annulations de matchs, les reports de matchs, c'est le préfet qui a l'autorité supérieure pour dire non, il n'y aura pas de match. Et là, l'FP s'incline.
Oui, mais le préfet prend peut-être l'avis du délégué LFP, justement.
Absolument pas. Il ne peut pas, puisque c'est un problème de sécurité publique.
D'accord. Ça n'a rien à voir avec le terrain.
Ça n'a rien à voir avec le football.
Par contre, sur le terrain, c'est vous, c'est le délégué. Par exemple, quand il pleut, il y a l'arbitre aussi. On parle des arbitres. C'est les arbitres et les délégués qui reportent ou non un match s'il pleut, s'il neige, s'il y a trop de vent, sur les conditions climatiques.
Il y a deux cas. Jusqu'à 2 heures avant le match, c'est le délégué qui peut reporter la rencontre. Et les 2 heures avant le match, les 2 dernières heures, c'est l'arbitre. Mais on fait ça en commun.
En commun, tout le temps.
Tout le temps.
Tout le temps. Comment on devient tout simplement délégué ? Si certains de nos auditeurs se disent finalement c'est super, on est vulgairement parlant assis sur un banc à regarder un match de football
professionnel. On est au cœur de l'action surtout.
Au cœur de l'action, c'est fantastique. Comment on devient délégué de la LFP ?
Aujourd'hui, ils vont frapper à la porte de leur district ou du club de football côté de chez eux et puis ils disent je voudrais être délégué parce que j'aime le football, mais je ne suis pas très très bon au football, mais je préfère m'occuper du football.
Comme Lucas Cerdic, par exemple.
Exactement. Mais c'est tout à fait moi.
Lucas Cerdic est un très bon gardien. Très bon gardien de but, à le préciser. Il n'est pas grand, mais il a une belle détente.
Donc, il faut se mettre en rapport avec son district, être d'abord délégué dans son district. Ensuite, si on travaille bien, on passe délégué à la Ligue régionale. De la Ligue régionale, on peut monter à la Fédération. Et la Fédération sélectionne certains délégués que le propose à la LFP.
Ok. Il vous a fallu combien de temps pour vous atteindre
les échelons ?
Combien il faut de temps pour passer du district au niveau professionnel ?
Disons qu'un très très bon, il va passer au moins 2 ans dans chaque étape. Au minimum.
Ça fait 6 ans.
Il faut qu'il soit très très bon.
Donc ça fait
aujourd'hui, j'encourage les gens à être délégués de démarrer à 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, la LFP cherche de bons délégués jeunes. Je ne connais plus la moyenne d'âge des délégués, mais elle est presque, allez, je vais dire 55 ans aujourd'hui. Ouais,
Il y a combien de délégués en France ? On le rappelle, délégués LFP, ça compte la Ligue 1, la Ligue 2 et la Coupe de la Ligue.
Voilà. Uniquement.
Et peut-être le Trophée des Champions.
Et le Trophée des Champions. Chaque fois qu'il y a une compétition avec un club professionnel sur la Coupe de France, chaque fois que vous avez, si vous avez Blagnac qui rencontre le TFC,
il y a un délégué.
Ça sera un délégué LFP. parce qu'il y a un club pro.
Donc ah, ça, oui, ça veut dire qu'il faut au moins, au moins 20 délégués LFP au minimum, vraiment.
Sur la France, actuellement, ils doivent être entre, entre 50 et 60.
Parce qu'ils sont deux par match. Il y a le délégué principal et le délégué assistant, c'est bien ça?
Aujourd'hui.
On essaie de pas.
Il y avait deux délégués. Aujourd'hui, sur certains matchs, par exemple, lorsqu'on va à Sochaux, parce que c'est quand même assez facile, il n'y aura plus qu'un délégué. Jean aime bien Sochaux, c'est pour ça que je pense.
Et d'ailleurs, vous n'avez jamais été au Stade.
Eh oui. Malheureusement, Jean m'a récusé pour que j'aille à son match.
si ça, c'est pas la poisse, quand même, il faut le dire.
Ouais. Non, là, je viens de dire un mot récusé, ça n'existe pas.
Ah, d'accord.
Ça n'existe pas.
Récusé, ça n'existe pas.
Par contre, un délégué peut dire, moi, je suis bien parce que je suis près du club de Toulouse, je ne veux pas être délégué à Toulouse parce que j'ai des amis qui sont dans le club.
Ah ouais, d'accord.
On ne le mettra pas sur ce match.
Mais sinon, vous êtes amené à aller n'importe où.
Il n'y a pas toute la France. Vous avez le droit de refuser, par exemple, est-ce qu'une personne qui est sur Nice ou sur Bastia, Ajaccio, a le droit de dire aller à Lille, à Lens toutes les 15 jours, ça va vite m'énerver par distance. Rien contre les nordistes ou à l'inverse. Hein. Oui. Les nordistes pour aller dans le sud. La distance, c'est fatigant.
À partir du moment où vous avez souhaité être délégué, suivant la catégorie que vous êtes, vous faites toute la France. Bon, c'est vrai que lorsque j'étais en région parisienne, c'était plus facile de me déplacer que depuis Toulouse.
Bien sûr. C'est pareil au niveau, on va dire des petites divisions, parce qu'au niveau du district, bon là ça reste quand même dans le département, mais après au niveau des divisions, on va dire de National 2, hein, là c'est pareil, vous vous déplacez, parce qu'il y a fait quand même des kilomètres.
Hein. Alors les délégués du district restent dans leur district, les délégués de la Ligue Occitanie aujourd'hui rayonnent dans l'Occitanie.
D'accord.
Et ensuite, il y a les délégués fédéraux qui ne font pas tout en France, qui font une région, un quart de la France en fonction de leur situation géographique.
D'accord.
Mais je crois qu'il faut aussi faire bouger les délégués. Il ne faut pas qu'un délégué qui habite dans le sud de la France voit que les matchs du sud de la France.
D'accord.
Il doit voir le football partout,
y
compris en Corse.
Oui, parce que c'est plus facile après quand justement il y a des clubs qui sont accueillis de savoir comment il faut gérer aussi.
Voilà, je crois qu'il faut tout voir.
Vous dites qu'il faut tout voir. Donc du coup, pour vous, un délégué, il doit aussi bien avoir fait des matchs de district que des matchs de L1 et avoir vu aussi de différentes régions.
C'est pour ça qu'on dit actuellement, pour être délégué au niveau professionnel de la Ligue de la LFP, il faut passer dans toutes les salles, il faut passer en bas de l'échelle.
Et il y a vraiment de la différence en termes footballistiques, en termes de niveau entre les régions en France. Vous pourrez nous donner quelques exemples.
Oui, au niveau catégorie. Au niveau des régions, aujourd'hui grâce au président de la fédération, M. Le Graët, qui travaille très bien, on essaie d'avoir la même chose, le même délégué, le même fonctionnement dans toutes les régions. C'est difficile, mais on y arrive.
On essaie d'avoir une homogénéité.
Et ça veut dire que derrière, lorsqu'on va monter au niveau LFP, on aura fait un bon travail, tout le monde parlera la même langue.
Lucas Sardic.
Vous disiez qu'il y avait entre 50 et 60 délégués LFP aujourd'hui en France. Ça veut dire que vous êtes sollicité à quelle fréquence? Toutes les deux semaines, trois semaines?
Moi, lorsque j'étais délégué, c'était environ trois week-ends sur quatre.
Trois week-ends sur quatre, mais c'est
énorme. Entre 28 et 30 matchs par an. Alors, je ne sais pas si...
Une saison.
Enfin, je trouve ça énorme comme investissement. C'est incroyable.
Mais c'est un sacerdoce.
Maxime Brossard.
Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes supporter d'un club en particulier et est-ce qu'il vous est arrivé de travailler, par exemple, dans ce stade vous pourrez nous dire.
Oui, parce que j'ai fait mon premier match en un club que j'aimais bien de cœur parce que c'était ma région de naissance.
Non.
Attention. Comment voulez-vous que je le sache? C'était à Bordeaux, puisque le premier match, je l'ai fait à Bordeaux.
D'accord.
Pour un Bordeaux-Nice en juillet 1995. Je crois que c'est ça, je ne me trompe pas.
D'accord.
Bon, et j'ai terminé aussi à Bordeaux.
Et le dernier, c'était à Bordeaux.
À Bordeaux aussi. Pour l'inauguration du nouveau stade à Bordeaux, contre Montpellier. Et je n'ai pas d'état d'âme lorsque je vois une équipe ou une autre. Il ne faut pas en avoir. Ouais. Un arbitre, il n'en a pas, moi non plus.
D'accord, c'est intéressant à savoir.
Vous n'avez pas d'état d'âme. Est-ce qu'on prend du plaisir parce qu'on va y revenir tout à l'heure, où il y a plein d'informations, il y a plein de choses à faire pendant le match, ce n'est pas de tout repos. Mais est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'on peut prendre plaisir pendant un match de foot? Ce match, il est super beau, j'adore, et on prend le temps de le regarder. On est vraiment concentré sur l'activité, sur ce match.
Alors ça dépend de deux choses. Ça dépend beaucoup des spectateurs. Si les spectateurs sont sages, s'il n'y a pas de fumigène, c'est bien plus facile. On est uniquement sur le rectangle vert. Et si le joueur joue proprement, peu d'avertissement, pas de contestation, on prend beaucoup de plaisir.
Les entraîneurs aident aussi.
Il faut que tout le monde m'aide à la partie. Il faut que les bancs soient sages.
Ça arrive souvent ?
Que les bancs soient sages ?
Oui.
Oui, en principe. Quand ils sont moins sages, on s'en occupe. Mais maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un quatrième arbitre.
Ah oui, c'est vrai.
C'est son boulot. On a fait ça pendant quelques années. Nous n'avions pas de quatrième arbitre.
Non, c'était le délégué qui
C'était le délégué qui gérait les bancs.
Maxime Brossard.
Là, on parle du monde professionnel, mais moi, avec mon activité de pigiste, des fois, je vais voir des matchs de foot amateur. Et c'est pas plus compliqué finalement d'aller vers des matchs amateurs parce que j'ai l'impression que la proximité finalement avec les bancs de touche, avec les arbitres, des supporters, et c'est plus proche que la Ligue 1, quoi. Il n'y a pas la séparation des tribunes. Et même quand je suis dans les tribunes, des fois j'entends des choses, c'est assez choquant. Quoi. Donc,
c'est vrai parce qu'il m'est arrivé de m'occuper, d'aller voir de jeunes délégués sur la région Midi-Pyrénées.
Ouais.
C'est pas toujours facile de gérer les bancs.
Ouais,
mais ça s'apprend.
Bien sûr.
Et on n'a pas de sécurité. On n'a pas la même sécurité que dans le monde professionnel.
Exactement. Enfin, pour avoir vu pas mal de matchs, que ce soit même au rugby, quand on voit les délégués et tout, c'est dur quand même. Enfin, souvent, ils sont ciblés comme l'arbitre. Généralement, dans les clubs de district, ils sont ciblés par des insultes. Enfin, c'est pas évident. Quoi.
Exactement. Comme les arbitres, on reçoit des mots pas forcément agréables.
Pas gentil. On revient sur l'activité brute, sur le terrain. Vous avez dit que vous arrivez au stade de 2 à 3 heures avant le coup d'envoi. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez au stade, simplement ?
On arrive 4 heures avant
4 heures.
Pour des matchs Ligue 1 et 2 heures avant pour les matchs Ligue 2.
Qu'est-ce qui fait la différence entre pourquoi c'est deux matchs professionnels et pourquoi c'est pas le même temps entre ces...
Vous n'avez pas le même nombre de spectateurs. Quand vous avez 800 spectateurs ou 1000 spectateurs quelquefois en Ligue 2
à Sochaux, par exemple.
Ou 70 000 spectateurs ailleurs.
Jour de fête.
Non, Sochaux avait un bon public.
Merci.
Ave,
oui.
J'y suis. Donc, on a un peu plus tard. La première chose qu'il y a à faire, c'est s'occuper de la sécurité. Donc, il y a une réunion de sécurité avec tous les intervenants.
Les agents de sécurité, ceux qu'on voit autour du terrain, qui regardent les spectateurs, par exemple.
Oui, c'est ça. Qui regardent les spectateurs, non pas le match.
Le lien est important avec la préfecture et avec la sécurité avant les matchs.
Oui, lorsqu'il y a des matchs à risque...
Un PSGOM, un OMPG...
Voilà, il y a des réunions de sécurité qui ont lieu dans le club ou en préfecture. Avec tous les différents représentants.
Maxime Brossard.
Je voulais vous demander, c'est quoi le match le plus chaud que vous avez fait, où c'est vraiment parti, c'était vraiment compliqué à gérer, quoi.
On a peur d'un déplacement Marseille, Bastia, Ajaccio,
peur de déplacement, on n'en a pas de peur.
Pourquoi un match un peu chaud.
On n'a pas peur d'aller sur un terrain. Ouais. Pas plus à Marseille, à Lyon, Saint-Etienne, ou à Bastia, ou à Ajaccio. C'est pareil. Bon, on sait qu'il y a des endroits où c'est un peu plus chaud que d'autres.
Ouais. Vous avez des souvenirs d'un match en particulier où c'était vraiment...
Oh, il y a eu des matchs et des derby corse qui étaient les plus chauds. Bon, mais ça, c'est... On va dire que de dire ça, c'est quelquefois un pléonasme.
Vous avez forcément une anecdote, quelque chose qui vous reste, un truc, je ne sais pas, qu'on n'imaginerait pas.
Il faut savoir qu'un match, la première anecdote que je vais vous donner, c'est qu'un match, il est fini lorsque tout le monde est rentré dans son vestiaire.
Ah oui.
J'ai des exemples. Dans le nord de la France, à quelques minutes de la fin, mon collègue me dit, tu vois, ça y est, c'est un match facile, le club a gagné, c'est fini. Et tout d'un coup, pam, 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 c'est parti.
Oula.
Et bien, on a eu 3 cartons rouges les deux dernières minutes. Et là, c'est difficile. Il faut vraiment faire attention. Alors là, des yeux, il ne faut pas en avoir que 2. Bon, ça va, moi j'ai des lunettes, donc ça m'en fait 4. Mais oui, il faut tout voir et tout entendre.
Vous avez un lien donc, avec la préfecture, avec les arbitres, avec la sécurité. Quel est le lien avec, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, avec les joueurs et avec les entraîneurs? Est-ce qu'il y a un côté théâtral finalement, puisque vous connaissez à force de se côtoyer, est-ce qu'il y a un côté théâtral par rapport à la télé, par rapport aux spectateurs?
On
vient voir un spectacle finalement. Oui, on regarde un spectacle.
Avec les joueurs, on voit un joueur dans chaque équipe, on voit les capitaines, et lorsqu'il passe signer la feuille de match dans le local de l'arbitre. Mais les joueurs, on les voit très, très peu. Très peu. Il y a, comme partout, c'est dans un monde, il y a de tout. Bon, il y a des joueurs qui, systématiquement, lorsqu'ils descendent du bus, puisqu'on est là pour la sécurité, ils viennent nous saluer.
Ah, okay.
C'est au moins 80% des joueurs.
Justement, vous avez, excuse-moi Maxime, je pense qu'on voulait peut-être demander la même chose, mais est-ce qu'il y a un joueur en particulier sympa ou au contraire pas sympa, quelqu'un avec qui même peut-être vous avez gardé contact, je sais pas qui, ou un entraîneur, oui bien sûr.
Oui, oui, moi j'avais j'ai quelques joueurs que j'ai trouvé sympathiques. Il y en avait un, c'était Sylvain Armand.
Ah oui.
Mais
passé par Paris, Rennes, Nantes.
Voilà, et il avait un beau-père aussi qui travaillait dans le milieu du football, qui était directeur de la sécurité, qui est toujours directeur de la sécurité à Nantes.
Donc il comprenait un petit peu.
Donc il comprenait bien notre boulot. Et lors de son dernier match parisien, à Lorient PSG.
Et quand ils sont champions, je crois. Hein.
Oui.
Ils sont là, la première.
Et il est, Osako, à la fin, il quittait le club du PSG, à la fin du match, avec un de ses collègues, qui quittait aussi le PSG. Ils sont venus chacun avec un ballon, offrir aux deux délégués,
c'est gentil,
chacun un ballon.
C'est excellent.
Voilà.
C'était pas le chrome, tiens.
C'était pas lui, parce que lui il a pas fini son match.
Oui, il a eu un carton.
C'était Sako qui va au.
Il a pas fini son match. Je préfère ne pas trop. Mais bon, il a pris un rouge malencontreux, ouais, on va dire.
Il a pas eu de chance.
Maxime Brossard. Et au niveau, on parle justement du comportement des joueurs. Est-ce que vous avez senti une évolution dans la mentalité des joueurs? Vous avez commencé dans les années 90, donc 95. Et au fil du temps, est-ce que les joueurs sont montrés plus agressifs envers les délégués? Est-ce qu'ils sont plus respectueux? Ou comment.
Alors, le respect existe. Le respect existe. Voilà. On part qu'on peut dire que les joueurs aujourd'hui, c'est la comédie italienne, quelque part.
C'est normal d'en embaucher des entraîneurs italiens.
Ah. pour terminer, en une vingtaine de secondes, si vous devez ressortir votre plus beau souvenir, quel qu'il soit, que ce soit un but, que ce soit, on parlait d'une anecdote, que ce soit un match, qu'est-ce que vous devez ressortir par rapport à votre carrière, votre activité?
Ma sortie de terrain du dernier match.
Enfin, au Matmut Atlantique,
où l'arbitre m'a pris par le cou et m'a dit: Daniel, on va marcher lentement, faut que tu en profites.
Ah, donc ça, c'est une belle image. C'était pour
avec Monsieur Bastien.
Merci Daniel Pi d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. C'est déjà terminé pour nous ce soir. Merci à vous. Merci à Coraline et Grégoire à la réalisation. Retrouvez dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Onaille et Corinne Saint-Félix. À 9h Vivante Église. À lundi sur Radio Présence.
Au revoir.
Au revoir.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.